la pêche.
Ah, oh, trop bien!
J'ai failli pêcher un black bass.
Ah, oh, trop bien!
Il a sauté et tout, mais après il est parti.
Mais t'étais où, à Madagascar?
Non, non, il y a des black bass dans l'Indre, mec.
Ah ouais?
Ouais. Mais en dehors de mes vacances, Mathieu, Pauline, j'ai une annonce à vous faire. L'envers du décor, c'est fini pour moi. C'est le dernier podcast que j'enregistre avec vous.
Non, mais Greg, tu peux pas nous lâcher, là. On forme une team, nous, on est trois, les trois mousquetaires, Porthos, Aramis, D'Artagnan, enfin tout ça, quoi.
Mais oui, Mathieu a raison, sans ton analyse scientifique à chaque épisode, ça partirait en freestyle complet, ce podcast.
Ouais, c'est vrai, ça.
Ah, vous êtes gentil. Enfin, surtout Pauline, même si c'est pas très sympa pour Mathieu.
Non, non, elle a raison.
Mais c'est pas ça le problème, c'est que notre travail, en fait, il sert à rien. C'est bien beau de parler d'écologie, mais on sauvera pas la planète avec des podcasts, hein.
Ah non, mais Greg, dis pas ça, hein. Je pense que tu traverses une petite déprime, c'est tout. Allez, viens, on va te remonter le moral.
Mais non, c'est pas la peine, ma décision, elle est prise. En plus, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, qu'on a abordé tous les sujets.
Bah non, c'est pas vrai, on n'a pas parlé de la pollution des sodas, des lunettes en plastique ou même de l'impact carbone du sexe. D'ailleurs, Mathieu, il en est où ce podcast?
Il progresse, l'impact carbone du sexe, il progresse, je peux te dire.
Eh ben écoute, il peut progresser tout seul, c'est bien, mais moi, dans tous les cas, je suis pas convaincu, j'ai pris ma décision, elle est définitive, je pars.
Ah non, mais ça c'est nul. Il faut au moins que tu nous donnes une raison, tu vois, pas juste « je pars ».
C'est clair, pour l'instant, tes arguments, Greg, c'est « on sauvera pas la planète avec des podcasts et on a déjà parlé de tout ». C'est totalement bidon.
Bon, vous voulez une raison? Ok. J'ai honte de travailler avec des pollueurs comme vous.
Oh !
Entre Pauline qui continue d'acheter des bouteilles en plastique même après le dernier podcast.
C'est pas vrai.
Et Mathieu qui n'a toujours pas vendu sa 308.
Jamais.
C'est plus possible, franchement, j'arrête.
Quoi? Mais y a pas plus écolo que nous? Hein, Mathieu?
Ouais.
J'ai même arrêté de prendre l'avion pour améliorer mon bilan carbone.
Ah oui, on fait hyper gaffe à notre... comment ça s'appelle? Bilan carbone? Ouais, bilan carbone. Ouais.
Ouais. Pas fait pour me rassurer, ça.
Ah si, on va te le prouver, Greg, qu'on est écolo avec Pauline. Et on va tellement bien te le prouver qu'à la fin, tu vas rester.
Bienvenue dans l'envers du décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Pauline Bro, journaliste végétarienne qui a une empreinte carbone super bonne.
Et moi, c'est Grégory Rosière, journaliste que vous entendez déjà depuis plus de 50 épisodes quand même.
Mais on ne se lasse pas de ta voix, Grégory. Et moi, c'est Mathieu Balu, journaliste prêt à tout pour que Greg ne parte pas, notamment des compliments ridicules. Tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri, sélectif bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Solutions qui ne sont certainement pas de quitter ce podcast.
En tout cas, pour te prouver qu'on était de vrais écolos avec Mathieu, on a calculé nos bilans carbone et ils sont super bons.
Ah ouais, on a fait les choses sérieusement. Dans le calculateur de l'ADEME, on a tout renseigné. Nos voyages, notre régime alimentaire, notre type de voiture, promis, on n'a pas triché.
Ok, là vous m'avez rendu curieux. J'aimerais bien connaître les résultats de vos empreintes carbone. Parce que pour vivre au bureau avec vous tous les jours, les éco-gestes, c'est pas votre fort. Pauline, déjà, tu mets même pas tes bouteilles de coca dans la bonne poubelle.
Oh, ça va, la leçon de morale. Tu sais quoi, Greg, mon empreinte carbone, elle est proche de la recommandation du GIEC. 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Je rappelle pour nos auditeurs qu'en moyenne, un Français émet aujourd'hui 10 tonnes de CO2 par an. Donc en gros, on devrait diviser par 5 nos émissions pour être dans les clous et limiter le réchauffement à plus de 2 degrés.
Voilà, et pour rappel, l'empreinte carbone, on n'a même pas écrit ce que c'était, il faut que je l'invente comme ça. Ok. Eh bien, l'empreinte carbone, ce que c'est ce qu'on émet comme gaz à effet de serre en fonction de nos activités.
Et de ce qu'on achète aussi.
Et de ce qu'on achète et de ce qu'on... des services aussi.
De ce qu'on jette.
Et donc à quoi ça sert? Eh bien à calculer facilement qu'est-ce qui a le plus d'impact sur le changement climatique dans notre quotidien.
Mais tu vois, c'est pour ça que t'es là. Pour ce genre de point définition relou. Allez, vas-y Pauline, balance ton empreinte carbone pour clouer le bec à Greg.
Alors, mon empreinte carbone est de 3,3 tonnes de CO2 par an.
C'est pas mal, enfin c'est même hallucinant en fait. Comment tu fais Pauline pour avoir un bilan aussi bon?
Bah ouais, moi aussi j'aimerais bien que tu nous expliques parce que là je t'avoue que je comprends pas comment ça se fait que ton bilan carbone soit aussi bon avec un mode de vie aussi peu écolo, hein. Désolé
oui.
De te le dire Pauline.
Et si on prend en compte que la moyenne par français c'est 10 tonnes et toi t'es à 3 tonnes 3 et nous on te voit tous
les
divisé
jours. Par 3,
ouais.
T'es pas un tiers de quelqu'un quand même.
Mais vous connaissez beaucoup de personnes qui sont végés? Parce que moi, je suis végétarienne. Et rien qu'en arrêtant de manger de la viande et du poisson, je réduis de moitié l'empreinte carbone de mon alimentation.
Tu vois, ça, c'est ça qui m'énerve avec les végétariens. Il faut qu'ils te le mettent dans la face à chaque fois.
C'est vrai, mais ça s'est un peu calmé. Il y a eu une époque où, effectivement, les végétariens, et notamment les véganes, ils étaient en mode « Ah, donc toi, ça te dérange pas de faire souffrir des animaux ?»
De manger des animaux morts.
Voilà.
Ouais, de parler, ils parlaient souvent de cadavres. C'est un truc sur ta ton assiette, tu vois, t'as ton assiette et ils disent « Ah, il y a un cadavre sur ton assiette. »
Bah, c'est pas faux, hein, même.
Maintenant, c'est la vie, quoi, ouais, c'est effectivement.
Ce sont des êtres sentients, Mathieu.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Tu as une conscience, merde.
Mais du coup, attends, en dehors de cette question qui va nous prolonger bien trop loin dans cette discussion, ça te fait économiser combien de kilos de CO2 d'être végétarienne ?
Eh bien, plus d'une tonne de CO2, mon cher Greg.
Végétarienne, hein, pas végane.
Non, végétarienne. Je mange pas de poisson ni de viande, mais je mange encore du fromage, du beurre et tout.
C'est sentient, le beurre. Hein.
C'est vraiment des trolls de niveau nul. Trolls de niveau zéro, quoi.
Et puis, il y a autre chose que mon alimentation qui me permet d'avoir une empreinte carbone très basse, c'est le fait que je n'ai pas de voiture. Hop, encore 2 tonnes d'économisées.
N'est-ce pas, Mathieu ?
Ouais, mais je savais que ça m'était directement dirigé. Hein. Alors, en fait, même pour la planète, je pense que j'aurais du mal à me passer de ma 308 chérie. Si je suis très honnête, je l'utilise, hein, cette voiture. Mais c'est vrai qu'elle plombe carrément mon bilan carbone. On va pas faire semblant, quoi.
Ah bah j'imagine, hein, une bonne vieille voiture thermique, c'est une petite bombe de carbone.
Tu sais quoi, t'as raison. Alors peut-être que comme cadeau de départ, de toi à moi, tu pourrais me payer une petite Tesla à 100 000 euros, quoi.
Tu sais, Mathieu, les voitures électriques, ça pollue aussi, hein.
Ah oui, donc là, c'est un bon prétexte pour pas m'en offrir, quoi.
Ah mais non, pas du tout. On a même fait un podcast sur ça, sur les voitures électriques et le fait que ça émet quand même des émissions de CO2 cachées pour produire la voiture, la batterie, etc. etc. Et puis en plus, c'est pas pratique, hein, tu sais.
À cause de l'autonomie notamment, non ?
Ah bah écoute, moi je connais quelqu'un qui a acheté une petite 208, je crois, donc un peu comme la tienne, modèle en dessous électrique, pour se déplacer plutôt en ville, sauf qu'ils vont bientôt déménager à l'autre bout de la France. Et dis-toi bien qu'ils voulaient descendre en voiture, et genre c'était 18 heures, un truc comme ça, pour faire le trajet. Du coup, ils vont la mettre sur un camion.
Attends, mais 18 heures, ça me paraît quand même monstrueux là. C'est quoi, à Naples qui va le type ?
Non, Marseille.
Non, mais c'est pas possible.
Donc tu vois, la voiture électrique, bon, c'est peut-être pas la solution idéale pour toi, Mathieu.
Bah voilà.
Mais ça pourrait quand même être intéressant parce que tu utilises quand même ta voiture pour aller au boulot, non ?
Alors non, pas du tout, Greg, mais merci de bien connaître ma vie, tu vois. Je prends pas du tout ma voiture pour aller au boulot, ça c'est faux. Je la prends seulement pour les longues distances, par exemple pour partir en vacances et au quai de temps en temps pour faire un plein de grosses courses à Place d'Italie, quoi.
Ouais.
Non mais c'est vrai. Et d'ailleurs, encore une fois, mon empreinte à moi, elle est tout à fait bonne, hein.
Ah ouais, bonne comment ?
Bah bonne comme 5 tonnes et demie.
Attends, c'est presque moitié moins ? Non, c'est pas possible, t'as triché.
Non, je t'assure, pas du tout. Mais bon, il faut dire que par exemple, j'ai tendance à privilégier le train à l'avion. Et rien que ça, en fait, ça fait vachement baisser le bilan carbone.
Alors ça, c'est clair que réduire ses trajets en avion, c'est super efficace pour diminuer son empreinte carbone. D'ailleurs, le GIEC dit qu'éviter un vol long courrier par an, tu réduis plus tes émissions de CO2 qu'en devenant végétarien ou même vegan. Cela dit, même si ton bilan carbone est bon, Mathieu, le mien est bien meilleur.
Comment ça, bien meilleur ?
4 tonnes 4.
Ah non, mais ça, c'est pas possible. On a un mode de vie similaire, on limite tous les deux notre consommation de viande et on prend le train, d'accord ? Mais du coup, comment ça se fait que ton mode de vie soit mieux que le mien ?
Ah, je sais pas, on regarde peut-être du côté de ta 308.
Ma 308, elle passe quand même l'essentiel de son temps au garage. Je vais pas me répéter encore une fois.
Bon, vous battez pas, ça sert à rien. Vous êtes hors jeu de toute manière avec vos bilans carbone. Moi, je suis à 3,3 tonnes.
Ah là là, mais on le sait, la bonne élève, là. C'est pour ça que je suis contre les bilans carbone individuels, tu vois. Ça met de la compétition entre les gens.
Non, mais c'est clair que cette pression, en plus, elle est assez inutile. Parce qu'on va pas sauver le climat avec nos petits gestes. Encore une fois, faut le rappeler. C'est un peu le but des podcasts de l'envers du décor, d'expliquer que les petites actions, c'est sympa, mais bon, une société sans carbone, ça nécessite des efforts de tous, y compris des entreprises, des gouvernements, etc.
Très beau ce que tu viens de dire, c'est très beau. Hein. Et c'est très vrai. Hein. Et c'est très l'objectif du podcast aussi au départ. Hein. C'est basé sur des discussions qu'on a eues, d'abord Greg et moi, mais ensuite avec Pauline, évidemment, sur le fait que le discours sur l'environnement était vachement tourné vers l'individu, vers les petits gestes, vers des actions... individuel et qui franchement n'était pas du tout structurel. Et ça nous énervait un peu parce qu'on sait très bien que c'est pas ça qui va faire qu'on saute par-dessus le mur qui vient, quoi.
Je crois qu'un de mes épisodes préférés, c'est celui sur le colibri, justement. Parce que pour moi, ce truc du colibri, ça représente justement tout ce qu'on peut faire de mal, tu vois, en termes d'écologie et de message, parce qu'on donne l'impression que c'est en faisant ton petit compost que tu vas compenser justement ton trajet à Paris-New York, quoi.
Ah, mais ça, c'est clair. Hein. La méthode du petit colibri, là, qui est comme ça, piou, 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 piou.
Pardon ?
Le petit colibri, tu sais, un colibri, ça fait... je sais pas exactement quel son ça fait, parce que c'est vraiment tout petit. À mon avis, ça fait...
Ça chante, non ?
Ah, à mon avis, il y a un truc, là. Hein ?
Franchement, c'est pas mal. Il y a vraiment des raisons pour que je reste, hein, mais vous ne m'avez pas convaincu, mais bel essai quand même.
En tout cas, on l'a dit et redit dans les 50 derniers podcasts, voilà, ce petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie avec un petit peu d'eau dans son bec, là, tout mignon, ça marche pas, et c'est pas avec des micro-petits gestes, comme, je sais pas moi, faire pipi sous la douche par exemple, qu'on va limiter le réchauffement.
Alors, je suis quand même d'accord avec vous, parce que je participe à ce podcast, mais quand même, le dernier rapport du GIEC nous dit qu'au contraire, que si, c'est utile les petits gestes. En changeant nos modes de vie et de comportement, on pourrait réduire de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se déplace moins, qu'on consomme moins d'énergie, qu'on mange moins de viande. La sobriété, quoi.
Oh, la sobriété. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire et évidemment avec ce que dit le GIEC, mais par contre, j'en ai marre de ce mot. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est devenu tendance, là, la sobriété, tu vois.
Ah, c'est vrai. Hein. J'ai peur que ça devienne un peu la nouvelle résilience, quoi.
Mais bon, voilà, j'aime pas ce côté buzzword, mais en vrai, la sobriété, c'est important. On en avait parlé d'ailleurs dans le podcast Décroissance.
Oui, c'est vrai. On s'était aperçu que justement... certains comportements, et c'est là où tu as raison Pauline, comme manger moins de viande, arrêter de prendre l'avion, bah oui, c'est efficace, c'est vraiment efficace. Mais là, en fait, on parle plus que de petits gestes. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Comme on disait, ce sont des changements de mode de vie qui vont impliquer de gros efforts. Donc on est au-delà du colibri, quoi. Et pour le dire autrement, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui seraient prêtes, volontairement et sans incitation ou sans contrainte, à arrêter de voyager et de manger de la viande pour sauver le climat?
Bah moi je connais Pauline, c'est déjà pas mal.
Ouais. Enfin Pauline, si tu veux, elle nous nargue avec son empreinte carbone de 3 tonnes 3, mais vu le nombre de bouteilles de coca qu'elle boit chaque jour, c'est pas exactement un modèle en matière de sobriété écologique quoi.
N'empêche, le fait est que depuis qu'on a trouvé ce truc du coca, c'est un peu la faille, tu vois, parce qu'il n'y en avait pas et là c'est la faille dans la carapace.
Ah, ça fait du bien.
En tout cas, merci de trouver qu'une seule faille en moi. Mais Mathieu, en fait, ce que t'as oublié, c'est qu'on était dans le même camp. Je te rappelle qu'il faut prouver à Greg qu'on est de parfaits écolos. Donc si tu pouvais ne serait-ce qu'essayer de me soutenir et de ne pas dévoiler mes petits travers pas écolos, ça serait sympa.
Mais moi, je t'ai dit que le bilan carbone s'adressait les gens les uns contre les autres. Enfin bon, t'as raison.
Bon, malgré tes remarques puériles, je te rejoins sur un point. C'est vrai que les petits gestes, ça ne suffit pas pour sauver la planète. Il y a une étude de Carbon 4 qui montre que même un comportement héroïque de toute la population ne permettrait pas de respecter l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris.
Bon, bah voilà, c'est clair. Donc rien ne sert de faire des efforts. De toute façon, c'est foutu. On limitera pas le réchauffement.
Salut.
Bye.
Alors, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Les petits gestes ne sont pas suffisants pour limiter le réchauffement climatique, oui, mais ils restent nécessaires. Si on avait un comportement exemplaire, on baisserait nos bilans carbone de 25 à 45%. Et ça, c'est quand même super intéressant. En gros, les 10 tonnes par habitant, on pourrait les diviser par 2.
Ouais. Diviser par 2, c'est pas mal. Ça ferait... on pourrait avoir 5 tonnes par habitant, mais c'est pas suffisant. Donc je vois pas pourquoi tu t'obstines à limiter ton empreinte carbone.
Mais parce que moi, je crois beaucoup au principe de réciprocité. On en a parlé dans le podcast sur la pollution de l'avion. On a dit que les changements sociétaux s'opèrent quand on s'appuie sur des modèles dans notre entourage ou des influenceurs sur les réseaux sociaux, par exemple.
Alors, est-ce que vous avez vu, justement parce que les influenceurs sur les réseaux sociaux, en général, ils vont pas trop dans le sens de la sobriété. Et il y a même une école pour influenceurs. Je sais pas si vous avez vu ce truc.
Non.
Ah, j'ai vu, moi. J'ai vu le clip hallucinant, là.
Avec un mec qui fait du golf sur un yacht et qui explique en gros « je vais t'apprendre à devenir influenceur pour aller faire le tour du monde dans des avions, dans des yachts et polluer autant que tu veux pour être influenceur ».
C'est vrai que ça ressemble fort à un troll. Il y a quelqu'un sur Twitter qui avait étudié le site web en fait à l'origine de cette vidéo. Et apparemment, si je me souviens bien, en fait la personne qui est à l'origine du site web, donc qui est à l'origine de cette pseudo-école pour influenceurs, est un peu un sérieux entrepreneur de ce genre de truc un peu viraux et honnêtement très très foireux.
Donc c'est pas fake, mais c'est une arnaque quoi.
Plutôt,
possiblement.
Ouais.
Non mais moi je te parle de vrais influenceurs climatiques, genre Camille Etienne. Ce sont des personnes qui nous montrent le bon chemin. Et en fait elles nous permettent de faire des efforts parce qu'on voit que d'autres en font. Et donc on compare nos devoirs en fonction des autres.
Mouais. Bon, à la limite, en étant végé par exemple, tu vas peut-être influencer ton entourage, mais bon, certainement pas toute la société. Toi, Pauline, parce que t'es pas une influenceuse, t'es pas une star. Hein.
Ouais, mais quand même, tu vois, depuis que je suis végé, bah, je me rends compte que le cantinier, il me fait de l'œil, quoi.
Le cantinier, carrément. Le cantinier.
Alors déjà, il y a un côté. Le cantinier, je crois que ça, c'est chez les soldats, non? Je crois que ça, c'est un truc de l'armée, le cantinier.
T'appelles ça comment, du coup?
Non, mais peut-être que c'est effectivement son titre, j'en sais rien, je veux surtout pas manquer de respect.
Bah ouais, parce que tu vois, dès que j'arrive, il sait déjà que je vais prendre un steak végé et il me le sert à l'avant. J'ai même pas besoin de demander « je veux un steak végé ». Il me sert, il fait mon assiette et tout, il me met plein de légumes en plus de mon steak végé. Enfin, ça se voit qu'il est touché par ma démarche, quoi.
Est-ce qu'il est devenu végé, le cantinier?
Je sais pas, mais je pense qu'en tout cas, je peux l'influencer.
Non, mais c'est bien d'y croire, tu vois, parce que t'as raison, il faut quand même un peu y croire, effectivement.
Bon, ok, moi toute seule, je pourrais pas influencer plein de monde. Mais si plusieurs personnes deviennent des influenceurs pour d'autres personnes, bah ça fait beaucoup de personnes sensibilisées. Regarde le végétarisme. Il y a encore 10 ans, quand tu étais végé, on te regardait avec de grands yeux. Maintenant, tous les restaurants ont adapté leur carte et proposent des plats sans viande.
Ouais, après je pense quand même que le végétarisme, ça s'est aussi développé parce qu'il y a eu des politiques. Par exemple, des communes ont mis en place des options végétariennes dans les cantines scolaires, et puis des entreprises, etc.
Ça, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai appelé César Dugast, c'est un expert de Carbone 4, et il m'a dit un peu la même chose. Il m'a expliqué que tout ne repose pas entre les mains du citoyen. Par exemple, tu décides d'avoir un bon comportement d'éco-citoyen. Tu prends le bus à la place de ta voiture. C'est chouette. Mais si ton bus roule au diesel, l'impact positif de ton action sera limité. Alors que si ton bus roule au gaz naturel, là, ton éco-geste aura vraiment un gros impact sur l'environnement. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui choisis le carburant de ton bus.
D'où ce besoin d'accompagnement dont parlait Greg d'ailleurs avec les communes. Moi, j'en vois des communes, par exemple, qui déploient des bus électriques ou qui aménagent des pistes cyclables pour nous accompagner dans notre transition à nous, notre transition individuelle.
Voilà, c'est ça.
Après, il y a les politiques et c'est hyper important, mais il faut aussi qu'on parle des entreprises. Il y en a certaines qui se sont quand même retroussées les manches et se sont demandé comment répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.
Donc, en gros, à la fois, c'est bien de faire ces petits gestes parce que ça peut un peu influencer les gens à faire de même pour pousser les politiques et les entreprises à s'adapter. Et par exemple, sur le végétarisme, on a des politiques publiques qui sont adaptées et on a aussi des entreprises qui sont adaptées.
Ça me rappelle Herta, par exemple, qui s'est mis à faire des steaks végétariens.
Après, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Un groupe de viande comme Herta qui propose des steaks végé et affiche l'importance de manger moins de viande...
Ouais, ça c'est clair.
Ouais, mais dans tous les cas, qu'ils fassent une filière végétarienne, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a de la demande et aussi qui vont dans le bon sens, à la fois pour le climat, pour la condition animale, etc.
Mais il n'y a pas que les entreprises agroalimentaires. Moi, j'ai parfois un peu la gorge serrée devant des pubs, des communications ou des messages véhiculés par certaines entreprises. Vous avez vu dernièrement la tribune des patrons d'Engie, d'EDF et Total Energy qui nous demandent de limiter notre consommation d'énergie dès aujourd'hui pour ne pas manquer d'électricité cet hiver. Ça me met en rogne de voir de gros pollueurs pour nous faire la morale.
Mais du coup, tu préférais que Engie, EDF et Total continuent à polluer, à investir dans le charbon, dans le pétrole et nous disent de plus consommer ?
Oui, peut-être, mais la notion de sobriété de la bouche de mastodonte de l'énergie fossile, ça ne passe vraiment pas. Ça les arrange bien de rejeter la faute sur nous, alors qu'ils sont à l'origine de projets climaticides, comme le projet ICOP par exemple. Vous savez, c'est le plus grand oléoduc du monde que veut construire Total.
Ah oui, oui. Ouais, ça on sait, hein, Greg.
Ah ouais. Pfff.
On vous en a bien, bien parlé de ce projet.
Et du coup, on va arrêter tout de suite la digression. Et pour revenir à cette histoire d'appel à la sobriété des grands groupes pétroliers et gaziers, je suis quand même assez d'accord avec toi, Pauline, sur le fond, c'est quand même malvenu de leur part. D'autant plus qu'ils cherchent à nous faire porter le chapeau du réchauffement climatique depuis déjà des années.
Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire, espèce de conspirationniste ?
J'y viens. Ouvrez bien grand vos oreilles. L'empreinte carbone est une invention des industriels pour reporter la faute du changement climatique sur nous, les consommateurs.
Non.
Si. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est pas eux qui ont inventé le mot empreinte carbone, mais en tout cas, ils l'ont quand même vraiment démocratisé.
Ok. Alors en fait, explique parce qu'on comprend rien.
En fait, dans les années 2000, il y a une nouvelle tendance qui est apparue dans les communications des entreprises d'énergie. Et les publicités ont commencé à se focaliser sur la manière dont les consommateurs utilisent leur énergie, par exemple avec des conseils tels que « chauffez et refroidissez votre maison efficacement ».
Oh là là, tu m'apprends un truc de dingue là, Greg. Comment, en tant que groupe pétrolier, qui fournit donc du pétrole, donc une énergie carbonée, polluante, tu peux faire ta pub sur la sobriété ? Ça n'a aucun sens !
Surtout qu'à l'époque, ils investissaient pas du tout dans les renouvelables. Hein. Et c'est pas fini. Le truc le plus dingue, c'est ce qu'a fait BP, la compagnie pétrolière, en 2004. La société, elle a développé son calculateur d'empreinte carbone pour que chacun puisse évaluer puis baisser les émissions de CO2 de ses activités quotidiennes, du type aller au travail, faire ses courses, voyager.
Si je résume ce que tu nous dis là, Greg, leur objectif, en fait, c'était de faire culpabiliser les gens sur leur propre mode de vie.
Exactement. Tu sais, c'est comme cette histoire quand on parlait des consignes. On avait des consignes et puis après, on a remplacé ça par du plastique. Et du coup, les industriels, plutôt que de revenir à la consigne parce qu'ils ont vu qu'on jetait plein de plastique, ils ont mis en place des centres de recyclage pour que les gens aillent recycler leur plastique. Et ben ça, en fait, ça a un nom, ça s'appelle le transfert de responsabilité. Ça permet aux entreprises d'énergie fossile de minimiser leur rôle dans les rejets de CO2. Et clairement, selon l'historienne d'Harvard, Naomi Oreskes,
ou Naomi Oresk, hein, je sais pas.
Ok, et ben en tout cas, ce type de campagne a contribué à ce que les gens se focalisent uniquement sur leur empreinte carbone. À eux.
Mais du coup, si on simplifie le truc, c'est assez hallucinant parce que c'est à cause de l'industrie pétrolière qu'on culpabilise dès qu'on fait une activité ou qu'on a un comportement qui émet beaucoup de CO2. C'est quand même hallucinant comme paradoxe.
Bim.
Oui, mais il y a quand même l'ACV qui permet justement d'empêcher ce transfert de responsabilité en pointant vraiment les phases de la production à la consommation qui polluent.
ACV, je me casse.
Non.
Quoi ?
Non. Pas l'ACV. Ce mot, je le déteste, j'en peux plus. Je suis sûr que même nos auditeurs y redoutent le moment où on va prononcer ces trois lettres. Si on continue, en fait, je crois que c'est moi qui vais arrêter le podcast. Hein.
Bon, après, je suis d'accord avec toi, c'est hyper relou, mais il faut quand même rappeler ce que c'est. Et avec enthousiasme. Alors, si vous voulez bien, pour mon dernier podcast, on va donner la définition de l'ACV en cœur.
Ah non, mais Greg, tu vas pas nous avoir en nous sortant que c'est le dernier podcast. Hein. Bon, allez, si tu veux, pour te faire plaisir, on va le dire tous les trois en même temps. La définition de l'ACV, attention, 1, 2, 3.
Association
des chiens végétariens. Hein ? Bon, on va demander à Pauline, c'est elle qui, en général, fait les recherches quand même.
C'est vrai.
Ah mais non, mais on avait écrit que c'était nous trois. J'aimerais bien qu'on le dise tous les trois.
Ouais,
en vrai.
D'accord. Okay. Alors, on y va. 1, 2, 3.
L'ACV, c'est quand des chercheurs vont regarder toutes les étapes de vie d'un produit, de la production des matières premières, à sa fabrication, à son transport, son utilisation, son recyclage, et tout ça pour calculer son empreinte carbone.
C'est l'horreur. Bref, à mon avis, vous n'avez rien entendu du tout. L'ACV, ça permet de montrer vraiment le coût pour le climat de nos achats, de nos modes de vie. C'est comme avec la voiture électrique, ok, elle émet plus de CO2 lorsqu'elle roule, mais il faut encore qu'elle soit produite proprement. Il n'y a pas un seul facteur à prendre en compte pour savoir si une activité, un aliment ou encore un comportement est bon ou non pour l'environnement. Il y en a plein et l'ACV recouvre tout ça.
En gros, l'ACV, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, l'empreinte carbone, quand on la calcule vraiment pour nous, on prend juste ce qu'on émet vraiment directement. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est quand même tout ce qu'on émet vis-à-vis de ce qu'on achète, ce qui a été produit, etc. Parce que c'est grâce à ça qu'on pourrait peut-être modifier les choses. C'était quoi le chiffre que tu disais, Pauline, tout à l'heure ? Nos petits gestes, on peut changer, on peut diviser par deux notre empreinte carbone, c'est ça ?
Oui, en tout cas, selon le GIEC, c'est de 40 à 70%, on peut la réduire, notre empreinte carbone.
Mais le reste, eh ben justement, c'est la production, c'est l'extraction des matières premières, c'est des changements de technologie. Et ça, on peut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut limiter grâce à l'ACV. C'est pour ça que c'est important l'ACV, Mathieu, même si tu bailles.
Non, mais je baille. C'est très bien ce que vous dites, mais en même temps, ça suffit pas. C'est-à-dire que l'ACV, c'est encore limiter un produit, une action au CO2 émis. Or, on l'a vu par exemple dans un épisode récent sur les bouteilles d'eau, où on a dit que non seulement leur bilan carbone n'était pas très bon, ça d'accord, mais qu'en plus, elles polluaient les océans avec les microplastiques. Et ça, bah, c'est hors analyse du coût carbone, quoi.
Ah ouais, je me rappelle. Les petites tortues qui meurent le bec coincé dans le culot des bouteilles. Tu ne referais pas une imitation du cri de tortue, Mathieu ?
Ah, j'ai travaillé depuis.
Toujours aussi bien ça. Merci le syndicat des eaux.
Pour résumer, l'ACV ne prend pas toujours bien en compte la pollution sur le milieu, les risques pour la biodiversité et les populations.
C'est quand même un peu dommage de parler des limites de l'ACV seulement maintenant pour le dernier podcast. En gros, on a pris 50 épisodes pour se rendre compte qu'il n'y a pas que l'ACV et l'empreinte carbone à considérer.
Eh ben tu vois, puisque c'est le 50e épisode, moi j'irais même beaucoup plus loin. L'empreinte carbone, on s'en fout.
Oh là.
Eh ouais, alors qu'on nous laisse tranquille, parce que c'est pas en prenant le problème par le petit bout de la lorgnette qu'on va le résoudre.
Oh bah non, on s'en fout pas non plus, t'es toujours dans l'excès de façon, Mathieu.
C'est pas vrai !
Si ! Je te rappelle quand même que la notion d'empreinte carbone, c'est un peu la base du protocole de Kyoto. Hein. Vous savez, le premier accord international a obligé les pays à calculer et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Depuis, l'empreinte carbone est devenue l'unité de référence pour fixer les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas avec les accords de Paris également. Et le gros atout... Tu bailles, Greg ?
Non, vas-y.
Ah ouais, c'est comme...
Non, mais vas-y. Eh bah, dis donc, pour le dernier podcast, super. On a choisi clairement le thème le moins chiant. Pourquoi on ne fait pas l'empreinte carbone du sexe, en fait, comme on avait dit au départ ?
Est-ce que tu l'as toujours pas écrit, Mathieu ?
Et après, vous vous étonnez que je vais me barrer, quoi.
Mais moi, je l'aime bien, ce sujet. Pour mesurer le changement climatique, qui est quand même un problème mondial, il faut un outil de référence applicable à tous les pays. Qu'on émette une tonne de CO2 aux États-Unis ou une tonne en France, la répercussion est la même et concerne tout le monde.
Au revoir.
Ouais, au revoir là.
Non mais restez.
Non mais franchement, au revoir.
Non mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est imparfait l'empreinte carbone. Hein.
Non mais Pauline, stop, le podcast il s'arrête, tu vas pas continuer toute seule. Hein.
Non mais si, faut continuer, on n'a pas encore parlé de l'ombre climatique.
L'ombre climatique? Non mais l'ombre climatique, on arrête Pauline là.
Attendez, écoutez quand même. Face aux limites de l'empreinte carbone, une journaliste américaine a développé le concept d'ombre climatique. L'ombre climatique calcule notre pression sur la nature, non seulement avec notre empreinte carbone, mais aussi...
Non!
Non, non, mais je recommence!
C'est pas possible, ça fait 50 épisodes, on peut pas imprimer un script sans faire en sorte qu'un paragraphe ne soit pas coupé en deux.
C'est quand même simple! T'as fait des études! Au cas où je garderais ça au montage, je tiens quand même à le mentionner. Là où Pauline parfois fait des pauses, c'est parce que les phrases sont coupées lorsqu'on passe d'une page à l'autre, parce que la personne qui a mis en page, qui se trouve être Pauline, n'a pas du tout géré de manière à ce que les phrases ne soient pas coupées. Voilà.
Oh mon Dieu, mais c'est parce qu'on devrait l'apprendre par cœur, c'est pour ça. Bon, allez.
Ah bah oui.
Faudrait faire des scripts moins longs pour ça.
Oh. L'ombre climatique calcule notre pression sur la nature, non seulement avec notre empreinte carbone, mais aussi selon notre philosophie de vie. Le nombre d'enfants que vous avez, votre lieu de travail, votre bord politique, tout ça rentrerait dans la balance. Je trouve ça génial.
C'est génial, mais c'est vraiment pas fun.
Et puis ça prend pas en compte, tu sais, les autres problèmes écologiques comme la biodiversité. En fait, ça fait longtemps qu'on se dit à chaque fois, justement, il n'y a pas une réponse simple, mais ça serait bien qu'on ait une sorte, on avait parlé du carbon score, mais même un biodiversité score, tu vois, une sorte de score global, tu vois, comme une sorte de vrai yuka, quoi.
Ouais, un vrai truc vraiment multifactoriel qui prenne en compte le court terme, le moyen terme et le long terme. En gros, oui, tu l'as dit avec un genre de yuka, mais il nous faudrait une super technologie, une super appli qui évalue si nos comportements sont vertueux ou non.
Ah, mais grave! Imagine, là, t'achètes un coca et pouf, ça bip dès que tu fais une action qui n'est pas écologique, quoi.
Non, mais vous êtes malade, hein. Un système de notes sociales comme en Chine, mais appliqué à l'écologie. Vous savez quoi? Je me casse aussi de ce podcast. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Oh, c'est joli,
longueur d'onde. Ah ouais, pas mal. Et ben moi aussi, je pars. Parce que j'en ai marre de des sujets chiants, du genre les limites de l'empreinte carbone pour évaluer nos émissions de CO2, ombre carbone ou je sais pas quoi. Ça va.
Bon. Bah finalement, c'est eux qui sont partis. Non mais attends, revenez. En plus, là, vous venez exactement de résumer l'essence même de ce podcast. Allez, restez là. Si on a créé l'envers du décor il y a 2 ans, c'est pas seulement parce que la planète va mal. C'est parce qu'on agit souvent n'importe comment, même quand on veut bien faire. C'est parce qu'il y a trop de sujets difficiles, compliqués, mais dont tout le monde devrait être au courant. Imaginez que le climat soit une pelote de laine.
Ah non mais tu vas pas encore nous faire le coup de la pelote de laine, hein. Non.
Allez quoi, c'est le dernier, s'il te plaît.
Bon, allez, vas-y.
Si le climat, c'est une pelote de laine, on a essayé de vous y amener par le petit bout de ficelle sympa, concernant, parfois un peu provoque. Mais à la fin de chaque épisode, on se retrouve avec un long fil déroulé qui résume les vrais problèmes et les solutions qui vont avec.
Je t'ai tellement entendu parler de la pelote de laine que je pense que t'as copyrighté cette expression, mais dans le fond, t'as pas tort. Parfois, on a un peu l'impression d'être face à un énorme mur et ça peut faire peur. Mais il faut être conscient de la catastrophe à venir pour trouver les moyens de l'éviter.
Alors on espère que vous avez autant apprécié écouter ce podcast qu'on a aimé le fabriquer.
Ah Pauline, c'est surtout toi qui l'as fabriqué à la fin le podcast.
Ah ouais, honnêtement, je sais même plus comment il s'appelle, je crois.
On vous dit au revoir et sûrement à bientôt. Plutôt que de nous envoyer un mail, vous pouvez nous contacter via nos comptes Twitter.
Oui, et puis soyez sympa pour la planète et continuez de suivre également la rubrique Environnement du œuf quand même. À bientôt, sûrement.
Salut à tous.
Gros bisous.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.